Chers auditeurs, nous avons le grand plaisir de découvrir aujourd'hui les grandes peurs, les superstitions et les autres diableries en pays chartrain. Et qui mieux que Michel Brice, bien connu de tous les chartrains et au-delà dans le département qui nous est cher, pourrait nous parler de ces événements qui ont marqué la mentalité des habitants de notre chère région. Michel Brice, qui est, dont le nom le rappelle, est un Beauceron d'origine, et pourtant vous êtes né à Paris.
Oui, bizarrement, mais c'est la faute de la guerre.
Donc peut-être pourriez-vous vous présenter à tous ceux qui ne vous connaîtriez pas, écoutez, malgré la très nombreuse production de livres que vous avez écrits, ne citant qu'à la découverte de Chartres, insolite et secret. Chartres, si le tour de ville nous était compté, donc vous êtes un auteur prolixe et vous connaissez excellemment toutes les histoires qui sont liées à Chartres et son pays chartrain.
Oui, je m'intéresse à l'histoire depuis fort longtemps. Le jeune septuagénaire alerte encore que je suis a commencé sa carrière littéraire en 1949, j'avais 9 ans, et j'ai écrit dans ma commune une monographie. Alors j'avoue mon péché, j'avais pompé le texte naturellement dans le bulletin paroissial. J'avais rien inventé, mais enfin, déjà à 9 ans, publié pour la famille, il y a eu 5 exemplaires je pense, pas plus, une monographie de la commune de Teville, c'était quand même déjà quelque chose qui était prometteur. Et puis je me suis toujours intéressé à l'histoire, dont l'histoire locale. Alors, pourquoi l'histoire locale? Il y a très très longtemps, mes parents, mon père en particulier, avaient collectionné quelques livres d'histoire locale, et puis moi j'ai poursuivi dans cette tradition familiale, et ça fait plus, je dirais, 60 ans pratiquement que je collectionne. J'ai eu pratiquement, et j'ai lu pratiquement tout ce qui s'est écrit sur Beauce et Perche, enfin surtout Beauce, qui est plutôt, c'est ma vraie petite patrie, et donc j'ai essayé de profiter de tout ça, j'ai intégré, et maintenant, la retraite venue, je me suis dit, si un jour j'écrivais tout ce que j'ai cru comprendre et apprendre, donc c'est ça le sens de ma démarche, si vous voulez. Hein, mais ça remonte très très en amont. Hein. J'ai toujours été intéressé par l'histoire locale et l'histoire en général, parce que si on veut comprendre l'histoire contemporaine, ben, il faut d'abord s'intéresser à ce qui s'est passé bien avant nous.
Et alors, est-ce que vous, enfant, vous avez eu des grandes peurs? Est-ce que les grands-parents vous ont raconté des histoires qui vous ont marqué?
Écoutez, oui, pour les gens de ma génération, donc... pendant la guerre, bon, j'étais pas encore, j'allais dire, capable de comprendre ce qu'était que la peur et la non-peur. Mais juste après la guerre, ma grand-mère me racontait quelquefois, et c'était récurrent en Beauce, tous les méfaits de la bande d'Orgères en particulier. Alors, en deux mots, ceux qui ne la connaissent pas, c'était à l'occasion de ce qu'on appelait la terreur, la période la plus noire de la Révolution française, année 1793-14, etc. Des bandes de brigands sont réapparues. Il n'y avait pas qu'en Beauce, hein, dans le nord de la France, c'était en Normandie aussi, il y en avait. Et ces gens-là étaient vraiment des gens de 5 et de cordes, hein, qui ont pillé et massacré tout à loisir. Alors donc ça, pour terrifier les petits-enfants dont j'étais à l'époque, il n'y avait rien de tel. Hein, quand on avait une punition, souvent c'était sous forme de punition. Alors je ne sais pas si on nous délivrait un message qui était une menace, mais c'était terrifiant pour des gamins, parce que c'était vraiment une période abominable.
Hein. Parce qu'on promettait aux enfants désobéissants de faire venir des brigands.
Ah ben absolument, absolument.
Quel est le modus operandi de ces brigands? Ils brûlaient aussi les pieds?
Bien sûr, ce sont les chauffeurs. Ben, vous connaissez parfaitement la question. Ce sont les chauffeurs. Pourquoi les chauffeurs? Parce qu'ils chauffaient les pieds des gens dans l'âtre pour faire avouer la place où ils cachaient leur trésor.
En général, dans les murs, il paraît qu'on trouve...
Oui, exactement. Quand on abat de vieilles maisons... un jour, pour que j'y pense d'ailleurs, on peut trouver des trésors.
Mais alors, quelles sont les autres peurs? Parce que dans vos connaissances, vous englobez une large période. Vous allez de l'an 1000 jusqu'au 18e siècle.
Alors, pour tout vous dire, il y a des gens qui ont travaillé en amont là-dessus. En particulier, j'ai une vénération très particulière pour quelqu'un que vous connaissez au moins de nom. C'était Monsieur Adolphe Lecoq, qui au 19e siècle a une production extraordinaire. Et sa famille était originaire de Pézy, donc à côté de ma commune, de Teville. Et il avait une connaissance remarquable de la région. Il a fouillé des tonnes et des tonnes de registres paroissiaux, ce que je fais un petit peu en ce moment, mais j'en fais moins que lui. Il avait une écriture sublime, et c'est lui qui a ouvert la piste. C'est le premier à avoir communiqué là-dessus. Ensuite, au début du 20e, il y a Gustave Fujouy qui a un petit peu travaillé là-dessus, mais il a survolé. Et puis un de mes maîtres que j'ai bien connu, c'était Monsieur Charles-Marcel Robillard, qui était de Jouy, et qui a écrit également des choses admirables là-dessus, parce que c'était aussi un rat de bibliothèque, et tout ça a complété ma formation et mon information. Alors je me suis dit, j'ai lu tous ces gens-là il y a bien longtemps, je vais essayer de poursuivre leur travail. Alors, les grandes peurs, c'est quoi? Il y a plusieurs sujets. On va commencer par, si vous voulez, un truc qui est très significatif, les loups. les loups en bosse. Alors, justement, Lecoq avait écrit des choses admirables là-dessus. Alors, ça paraît complètement surréaliste quand on dit à des gens aujourd'hui, au nord de Chartres, Graville, Nogent-le-Fay, était infesté de loups jusqu'au XVIIIe siècle. Le Coudray, au sud de Chartres, était infesté de loups au XVIIIe siècle, jusqu'au XVIIIe, parce que c'était très boisé. Et il y a des cas de mortalité, mais effroyables. Alors, le loup, qui pourtant, moi j'ai une vénération en tant que chasseur pour le loup, parce que, vous savez, je raisonne comme les Indiens américains, mes lointains ancêtres ont dû chasser dans la prairie avec des coyotes, moi ce sont des loups. Hein. Et le loup est un commensal de l'homme, mais compte tenu de tout ce qui s'est passé dans ce pays, la guerre de 100 ans, les guerres de religion, où des cadavres traînaient partout, ce qui fait que les loups avaient pris goût à la chair humaine. Alors, on voit alors quelquefois c'est sûrement un peu exagéré parce qu'il y a toute, j'allais dire, une symbolique derrière ça. Nos curés de paroisse qui rapportent les méfaits des loups, les loups qui attaquaient par exemple les jeunes filles, les jeunes femmes, les hommes avaient eux fabriqué des armes pour se défendre, mais c'est décrit dans des termes épouvantables. Alors il y a une sémantique qui fait froid dans le dos, vous savez, on vous cite des enfants éventrés, les boyaux traînant par terre, etc. C'est quelque chose d'atroce. Mais ça existait. Hein. Il y a eu beaucoup de mortalité. Ça même ému Louis le XIVe, qui un jour, venant à Maintenon voir où en étaient ses travaux pharaoniques qui n'ont jamais abouti, s'est ému de la mortalité due par les loups, et a donc renforcé l'activité des fameux lieutenants de louveterie, bon, qui est dans une institution qui existe encore, il n'y a plus de loups, mais l'institution existe toujours. Donc j'ai commencé par travailler là-dessus, mais c'est terrifiant, mais ça s'est passé.
Donc c'est réel,
ce danger tout à fait. Réel. Alors, il y avait une symbolique, parce que les curés bon, qui relataient ça, alors vous savez, il y a le cheminement qui va du loup au loup-garou, parce que ça, on arrive à la sorcellerie après. Alors, il y avait des gens qu'on désignait dans la population les meneux de loups, les meneurs de loups, c'était des gens suspects, c'était des gens qui, comme des gens qui savent parler à l'oreille des chevaux, ces gens-là étaient capables de diriger des meutes de loups dans l'élevage du voisin pour détruire son élevage. Et il y avait toute une symbolique très forte là-dessus. Alors ça a fortement impressionné les populations du moment. Il faut savoir qu'au 19e, c'est pas si loin, première moitié du 19e siècle, il y avait des primes très fortes. Une louve pleine tué était payé 150 francs or. 150 francs or. C'est vous dire que c'était quand même quelque chose qui était encore prégnant comme phénomène. Un louveteau ne coûtait que 6 francs. Vous voyez, le rapport est tout à fait significatif. Le dernier loup était dans un département, était tué dans les années 1911. Bon, il a peut-être après, mais enfin, ça n'a pas été relaté. Ça, c'était une peur fondamentale. Les guerres et le brigandage. Alors j'ai fait allusion tout à l'heure à la guerre de 100 ans, qui a été une abomination, enfin, on est spécialiste dans ce pays, et donc qui a duré plus de 100 ans d'ailleurs, et qui avait des entr'actes, vous savez. Alors il y avait la guerre, bien sûr, entre Anglais, paraît-il, et Français, enfin les Français c'était des Français, les Anglais, il y avait très peu d'Anglais d'ailleurs. Hein, il y avait beaucoup de collaborateurs français, faut bien le dire, des Bourguignons, des Navarrais, etc., tous les mercenaires possibles, imaginables. Et quand il y avait un entr'acte, ben, ces gens-là étaient désœuvrés. Et alors, il fallait bien qu'ils gagnent leur vie, puis qu'ils arrivent à trouver leur subsistance. Alors, j'ai découvert que des gens vénérés et, comment dirais-je, adulés, comme Dunois, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, Lahire, toutes gens qui ont participé à la libération de Chartres pendant la guerre de 100 ans, ben, ces gens-là, quand il y avait un entr'acte, bah, ils brigandaient.
Ouais,
il fallait, bah oui, il rapinait, etc. Alors, vol, viol, machin, tout ce que vous pouvez imaginer, ça fonctionnait comme ça. Et les malheureux paysans étaient bon, les dernières victimes, naturellement, ce qui fait que dans ces périodes, il y a des grandes zones de friches qui sont réapparues en Beauce, hein, induisant naturellement des pertes de production agricole, etc., avec tout ce que ça représente. Alors ça m'a également intéressé. Les guerres de religion, alors là, il y a des spécificités chez nous, en particulier les mercenaires, les reîtres, allemands étaient là, mercenaires. Alors, ils n'étaient pas très violents, hein. C'était pas des grands guerriers, parce que j'ai vérifié, leurs ailes étaient directement proportionnelles à la solde. Hein. Alors, et ceux qui étaient bien payés étaient vraiment très très forts. Hein. Et puis les autres, ce qui fait qu'il y a eu un massacre à la bataille d'Hono, il y a eu 2000 reîtres, paraît-il. Enfin, il y a toujours l'emphase et l'exagération. Il faut faire très attention quand on lit ces textes-là, hein, parce que, à mon avis, on exagère parfois. Mais enfin, ça existait. Hein. Et puis, il y a les problèmes sanitaires. Alors, il y a une date très importante dans l'histoire de l'Europe, alors là on va élargir le débat, c'est la peste noire. Enfin, les pestes noires, parce que bon, le premier épisode qu'on connaît, c'est pendant l'époque romaine. C'était pas une peste bubonique, c'était une peste qui était quand même un peu plus bénigne. Mais apparaît dans les années 1347-48, etc., la peste noire. Il faut savoir que c'est 40% de la population européenne qui passe de vie à trépas. À Paris, Paris faisait 200 000 habitants. 5 ans après, il n'y en a plus que 100 000. Hein. Chartres, notre région, c'est entre 30 et 40% à peu près. Et très curieusement, il y avait des zones qui... la Scandinavie était touchée également. Et puis, en Angleterre, il n'était pas touché. On ne sait pas trop pourquoi. Et ça impressionnait seulement les masses. Et c'est là un grand mystère pour elles, parce qu'il y avait des gens qui étaient touchés, des périodes où il n'y a pas de maladie. Pour le commun des mortels à cette époque-là qui ignore, c'était forcément un signe divin.
On va écouter une petite pièce de musique pour alléger le sort de tous ces pauvres gens. Cher Michel Brice, vous nous avez fait très peur avec toutes ces peurs et dangers bien réels, les loups, les guerres de religion, les problèmes sanitaires. Et ces dangers étaient sans doute source de superstition. Comment est-ce qu'on peut conjurer le danger? Comment l'éviter?
Alors, j'allais dire, le fonctionnement à l'époque de nos ancêtres, c'était entre l'enseignement de l'Église et les dérives superstitieuses. Tout ça était intimement lié d'ailleurs, hein. On avait bien du mal quelquefois à faire le partage. Mais les peurs essentielles, c'était à la fois des peurs apocalyptiques, car les grands maux de cette époque, c'était la guerre, je vous l'ai dit, la famine, la peste et les épidémies. Il y avait quelquefois, on faisait une part particulière à la peste, tellement les dommages étaient importants. Et donc ça, c'est les peurs apocalyptiques, les peurs eschatologiques également. Alors ça, c'est fondamental. Ce n'était pas à vous, cher ami, que je vais apprendre ça. Le tympan du portail sud de la cathédrale, le jugement dernier. Comment les gens du peuple qui ne savaient pas lire ni écrire, on leur montrait ça, c'était proprement terrifiant. Hein. Alors tout ça, ça entretenait, j'allais dire, les angoisses existentielles. C'était le fonctionnement de l'époque. On peut le juger comme on veut aujourd'hui, mais ça fonctionnait comme ça. Alors donc il y avait une peur perpétuelle. Les gens vivaient dans la peur perpétuelle. Alors il y a également un sujet, je l'ai partiellement abordé tout à l'heure, c'est la sorcellerie. Bon, la sorcellerie, on devait déboucher sur la sorcellerie. Alors on avait en Beauce en particulier des gens dont on se méfiait beaucoup. C'était les bergers. Et il n'y a pas que chez nous, dans d'autres civilisations, j'ai pu lire qu'effectivement en Europe, les bergers étaient toujours suspects, parce que ce sont des gens qui vivaient seuls en plaine avec leurs chiens. Donc ils avaient forcément des accointances avec le malin, ils étaient capables de guérir leurs animaux parfois, ils étaient capables aussi de faire mourir le troupeau du voisin. Aussi, donc tous ces gens-là étaient suspects. Et puis il y avait donc tout un tas de petits métiers, j'appellerais ça, il y avait les rebouteux que j'ai connus, qui existent encore. Et je puis vous dire que je l'ai vu, et il est possible que ça existe toujours, j'en suis même convaincu, que dans le milieu agricole que je connais bien, il y a encore 40 ou 50 ans, quand un ouvrier se faisait une entorse, on n'allait pas chez le médecin, on allait chez le toucheux. Le toucheux touchait. Hein. Alors il y avait des phrases rituelles, etc., qui avaient un caractère kabbalistique, quasiment, et ça fonctionnait, semble-t-il. Je suis jamais passé dans les mains d'un toucheux. Bon, mais tout ça, donc, c'est tout ça est prégnant. Hein. Il y a un background là qui est toujours prégnant, d'ailleurs, dans notre culture beauceronne. On en parle moins, les jeunes générations l'ignorent, mais des gens de mon âge, on a eu contact avec ça. Hein. Alors ces fameux bergers avaient des pratiques effectivement assez étonnantes, et il y avait des brigands là-dedans de grand chemin, dans la mesure où ils avaient la capacité en particulier de donner à certains troupeaux de leurs propriétaires donc des potions dites magiques qui rendaient les animaux pratiquement mourants. Et ils montrent ça à leur patron. Vous voyez, maître, les moutons sont en train de crever. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Il faut vous en débarrasser très vite. Et il y avait une deuxième équipe qui était de mèche avec la première, qui arrivait quelques heures après, en disant, oh maître, vos moutons sont prêts à mourir, faut vous débarrasser de ça, tout ça. Ils achetaient ça à vil prix, et naturellement, le lendemain, l'antidote arrivait, et les moutons gambadaient joyeusement parce qu'on les avait remis sur pied. Voilà, c'était une anecdote, mais qui était fréquente. Il y a un dénommé Asselin, d'ailleurs, qui a été pendu place des Halles pour ça. C'était un chef de gang, en quelque sorte, c'est lui qui avait mis au point le système.
Alors, ça, à quelle période?
Ça, c'est le 17e siècle. Et ça se passe dans ma commune. C'est pour ça que ça m'a intéressé.
Oui, mais attends, je suis un peu rassurée, parce que dans les vitraux de la cathédrale de Chartres, le berger, c'est le bon pasteur.
Oui. Ah, bien sûr.
Il est proposé au modèle.
Bien sûr.
Donc effectivement, nous sommes un peu loin
de cette imagerie
médiévale.
C'est toute l'ambiguïté, précisément, des messages qui nous sont délivrés. De la symbolique religieuse au malin, il y a quelquefois une distance très très mince, vous savez.
Alors pourrait-on, en vous écoutant, peut-être interpréter certaines scènes de métier ou des vitres verrières dans ce même sens, peut-être le maréchal Ferrand, qui trichait aussi en mal clouant son fer.
Vous le savez très bien, cher ami, le fer, vous nous l'avez rappelé il y a deux jours, l'usage du fer, ça, c'est le maléfice. Mais les forgerons avaient un rôle à jouer également. Les fameux loups, j'y reviens. Il y avait forcément des morsures. Il n'y avait pas que des morts, il y avait des morsures. Mais il y avait pas mal de loups enragés. Alors on mettait tout sur le dos du loup. C'était les chiens errants, les croisements, qui étaient, et ça faisait des bêtes énormes. Alors on a connu en France la bête du Gévaudan. Dans la généralité d'Orléans, on a connu la bête d'Orléans. À Gaville, il y avait la bête de Gaville, qui était un loup monstrueux, décrit par les survivants, naturellement. Et il y avait une histoire très intéressante qui relève de la sorcellerie, c'est l'histoire du ménétrier de Gaville. Ça se passe.
Racontez-nous cette histoire.
Ah oui, c'est une histoire. Parce que je l'ai décryptée, je crois avoir compris comment ça fonctionne, cette affaire-là. Et il y a du religieux, naturellement, et il y a du symbolique, et il y a du légendaire. Un ménétrier, un violoneux, est invité à Chartres pour jouer pendant un mariage. Ça se passe au XVIIe siècle, fin XVIIe. Naturellement, l'usage était d'enivrer le violoneux pour qu'il joue plus vite et plus fort. Bon, donc on l'enivre, c'est très bien. On le paye à la fin de la noce. Et puis, l'usage était également de lui donner une part du gâteau de la mariée. Et ce ménétrier, légèrement éméché, qui habite Gaville, « Oh, dis-moi, je vais passer à travers Bois, ça va aller bien plus vite. » Donc, il évite la grande route de Paris, qui est la route sécurisée, qui est la route du salut. Début du message. Naturellement, c'est très intéressant là, de traverser les bois, c'est peut-être à la belle saison, je ne sais pas. Et à un moment donné, il se retourne et il voit que le loup gigantesque marche à côté de lui. Et il se rapproche, et le loup. Alors il donne à chaque fois des morceaux de son gâteau. Quand il n'a plus de gâteau, bah oui, il prend le violon, donc la musique, symbolique, la musique, et il monte sur un têtard de saule pour se réfugier et il crie. Et là, il est presque arrivé chez lui, il est tout près de la route de Paris. Et sur la route de Paris, qui est la route du salut, il y a des gens qui viennent à son secours et qui chassent le malin, à savoir qui chassent le loup. C'est ça, là, qui est intéressant.
Donc chaque époque va adapter.
Mais bien sûr, mais tout ça, c'est à géométrie variable, on trouve là-dedans tout ce qu'on veut.
Donc c'est un peu le chaperon rouge, mais cette fois-ci, c'est un ménétrier pas très sage, puisque c'est déjà enivré.
Absolument.
Donc on retrouve. Alors, quelles sont les autres histoires, peut-être avec des pierres
Alors, effectivement, la Révolution en particulier, bon, c'était, comme le nom l'indique, une révolution, c'est pas une promenade de santé, ça se saurait. Et il y a eu, effectivement, le rôle de l'Église qui a diminué à cette époque-là, sont réapparus de vieilles peurs et de vieilles pierres aussi. Vous allez voir pourquoi ce lapsus est révélateur. C'est qu'en particulier, on est revenu à des pratiques païennes. Nos mégalithes en Beauce, il y avait beaucoup de mégalithes, il y en a beaucoup moins maintenant, hélas. Et les gens, en particulier, les femmes stériles, là, il y avait des embâches, pas loin de chez moi, donc prenez le gilon, les femmes stériles, allaient se frotter le ventre sur une certaine pierre, etc., à un moment donné de l'année pour pouvoir avoir des enfants, enfin, tout ça, c'est connu. Et il y avait également, à cette époque-là, se réapparut l'histoire de la messe de minuit, comme vous le savez, qui au 12e coup de minuit, pendant la lecture de, comment ça s'appelle ce texte religieux, je ne sais plus, la généalogie, la pierre s'entrouvrait, n'est-ce pas, et apparaissaient des pierreries, etc. Et tous les gens attirés par le lucre se précipitaient et descendaient sous la pierre, les malheureux. La pierre se refermait sur eux. Donc encore un message là, vous voyez.
Alors où se trouve cette pierre? On peut la
localiser?
Apprenez
le gilon, celle-là a disparu. J'ai écrit il n'y a pas longtemps sur celle qui reste, mais celle qui était... Il y en a d'autres, il y en a plein. Et c'est en Europe de l'Ouest, ça se trouve un peu partout.
Donc l'Église racontait ces histoires?
Ah oui, en Irlande on a la même histoire.
En
Irlande on a la même histoire. Je vous dis, j'étais très intéressé quand j'ai fait un bouquin sur les almanachs de voir que l'Europe, j'allais dire du légendaire, existait. On a du mal à faire l'Europe économique en ce moment, comme vous le savez, mais l'Europe du légendaire existait. Hein. Et ça, c'est quand même, à mon avis, on aurait pu s'appuyer là-dessus, sur la culture et sur les langues, et à mon avis, on aurait bien marché.
L'universalité des croyances et superstitions, et effectivement, vous me l'avez prouvé en me racontant que vos parents vous interdisaient de mettre une boule de pain à l'envers.
Absolument.
Moi, enfant, j'ai écouté la même histoire. Voilà. On me faisait pas forcément peur, mais on disait que le pain pouvait manquer à la maison si on ne le respectait pas.
Ah oui, nous, c'était le diable sur le toit qui arrivait. Hein. C'était beaucoup plus grave, hein. Attention.
On va alléger notre sort avec un peu de musique. La sorcellerie, Michel Brice, a sévi aussi en pays chartrain. Vous avez connu une autre histoire avec quelqu'un qui porte votre patronyme?
Oui, exactement, oui. Une diablerie, on va l'appeler par son nom. Ça se passe au XVIIIe siècle, dans la rue Saint-Brice, à Chartres. Des jeunes gens, comme tous les jeunes gens. Un soir d'été, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent aller dans une cave pour danser. Ça me paraît bien normal. Bon. Alors ils vont en ville et puis ils cherchent un violoneux et puis ils trouvent personne. Et en revenant à la porte Saint-Michel, il voit un type qui est le long du rempart, chapeau baissé comme ça. Et il a un violon à la main. Alors il dit, écoutez, vous pourriez venir jouer. Ben, il dit, d'accord, etc. Il l'accompagne, donc, ils font entrer dans la dite cave. Le type commence à jouer. Alors des rythmes déjà beaucoup assez calmes. Hein. Mais rapidement, on va passer du slow rock. Hein. Et à un moment donné, il y a une musique extraordinaire là-dedans. C'est un rythme endiablé, le mot s'impose, et une jeune fille de la cave voit sous le chapeau du gars apparaître deux petites cornes. C'était le malin. Par le truchement de la musique, qui est un art dont il faut se méfier, vous le savez bien. Donc le diable s'était introduit dans cette réunion amicale et sympathique. Donc il faut se méfier de cette musique, hein, vous savez, on ne l'a jamais introduit.
L'Église a de tout temps effectivement mis en garde contre la mauvaise musique, et les abus, les dangers.
Oui, tout à fait.
Donc les violoneux, on ne semble pas forcément les aimer. Donc on met en garde tous les gens contre la musique qui mène à la débauche.
Absolument.
Tous les abus. Mais alors, la sorcellerie, est-ce qu'on a l'histoire d'une sorcière qui aurait sévi?
Alors, écoutez, je vais vous dire,
par
définition, les sorcières avaient une durée de vie très courte. Elles finissaient souvent pendues haut et court, et encore plus souvent, elles se terminaient en charbon de bois, parce qu'on les brûlait.
Qu'est-ce qu'on leur reprochait? Peut-être de charmer des animaux, de rendre malade la vache du voisin?
Oui, bien sûr. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait également, moi je vous ai parlé des toucheux, il y avait les envoûteux. Les envoûteux, c'est des gens qui possédaient des formules magiques pour, à distance, faire crever le bétail du voisin, etc.
C'est un peu du voodoo avant l'heure.
C'est du voodoo avant l'heure, exactement.
Jeter le sort sur le voisin.
Les jeteurs de sorts, on avait ça, les jeteurs de sorts, hein, et là, l'Église combattait ça ça, parce qu'il y avait des prêtres spécialisés également, c'est un peu comme l'exorcisme, vous comprenez, il y avait des prêtres très spécialisés là-dedans qui essayaient d'éradiquer ces pratiques superstitieuses, mais ils avaient bien du mal. Alors effectivement, donc, les malheureuses sorcières, il y en a eu beaucoup, hein, il y en a eu beaucoup, mais alors là, elles portaient, le poids du péché originel, c'était des Ève, n'est-ce pas, qui prolongeait...
Mais lointain aussi du Moyen-Âge, je crois.
Bien sûr, qui prolongeait la malédiction, le paradis perdu, c'est bien connu, n'est-ce pas. Alors donc ça, on leur faisait pas de cadeaux. Hein. Il y en a eu pas mal de raccourcis à Chartres, mais c'est surtout on les brûlait, hein, les sorcières, on les brûlait, essentiellement.
On a des documents qui relatent...
Ah oui, moi dans ce que je suis en train d'écrire, là j'ai retrouvé effectivement dans des documents anciens, et toujours les registres paroissiaux qui sont une mine d'informations. Si on n'avait pas ça, on serait à mon avis complètement ignorant, hein, de ce qui s'est passé à cette époque-là, parce que les pauvres curés, bon, la plupart écrivaient un petit peu, pas toujours trop bien, ils exagéraient souvent, hein. Ça j'ai pu remarquer par recoupement que, bon, peu importe. Mais on a des informations et qu'on peut recouper. Alors donc, les sorcières, ben, y en a eu. Hein,
elles jouent un peu le rôle aussi du bouc émissaire, sans doute, quand il y avait des catastrophes, il fallait bien trouver quelqu'un de responsable.
Bien sûr. Alors on a eu aussi une célèbre empoisonneuse très près de chez moi, donc toujours à côté de Pézy et du bois de Saint-Martin, la Brévillier, vous connaissez la Brévillier, qui a empoisonné, alors au sens propre comme au sens figuré, toute sa famille y est passée. Alors elle, elle avait réussi à passer au travers des mailles de la justice ecclésiastique, mais par contre, la justice du roi, elle a été décapitée en place de grève à Paris, hein, donc on ne plaisantait pas à l'époque. Hein.
Est-ce qu'on sait quel poison elle a utilisé?
Ah, là, c'est un mystère pour moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Mais elle a mis, j'allais dire, elle a envoyé à de patresse des dizaines de personnes. Toute sa famille y est passée.
Mais c'est aussi une grande... On avait à l'époque une grande connaissance des plantes.
Ah bien sûr.
Une cible,
bien sûr.
Aussi des plantes qui pouvaient guérir.
Bien sûr. Tout à l'heure, on abordait le sujet du forgeron. Je voudrais y revenir parce que je n'ai pas donné toute l'explication. Le forgeron, qui est quelqu'un dont il faut se méfier, on le sait.
Dans l'imaginaire européen, nous l'avons vu, c'est quelqu'un qui fait peur, évidemment.
Oui, oui.
Il manipule le feu.
Mais il participait également à certaines thérapeutiques, en particulier les gens qui étaient enragés. Alors, on appelait ça l'hydrophobie à l'époque, qui était en médecine, est un signe clinique, l'hydrophobie. Bon, mais c'est vrai, et c'était terrifiant, parce que la rage, c'est une destruction des muscles, etc., du cœur, c'est épouvantable. Et ce qui fait que, d'ailleurs, quand ça se passait très mal, à la fin, et c'était une notoriété, on étouffait les gens entre deux matelas. C'était une forme d'euthanasie pour qu'ils ne souffrent plus, parce qu'il n'y avait pas de traitement. Mais les forgerons avaient un traitement, eux. Il y en avait des bons. Il y avait même des forgeronneux qui sévissaient là-dedans. On traitait au fer rouge. T'as été mordu là, mets ta main, fer rouge. Alors bon, il y avait
ça tue, dans la plaie, ça tue et tout.
Alors, le bacille rabique, peut-être s'il restait là, ce qui me surprend médicalement parlant, mais enfin, ça, c'est un autre débat. Et puis, il y avait également, donc, de la phytothérapie. Il y avait des gens et des sorcières, là, qui avaient des produits miracles. Mais malheureusement, quelquefois, les gens mouraient guéris. Ils étaient guéris de la rage, mais ils mouraient parce qu'il y avait une overdose des plantes employées. Donc, il y avait vraiment un revers de la médaille dont il fallait se méfier, là.
Donc les forgerons avaient aussi le bon côté, donc ils avaient avant Pasteur bien découvert qu'on pouvait désinfecter les plaies par la chaleur.
Oui, par la
chaleur. Excessive, certes, mais salutaire à ces pauvres enragés.
Les pauvres enragés, qui étaient nombreux, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que évidemment il y avait plein de chiens errants, ça c'est évident. Et puis tous les animaux sont vecteurs, le gibier était vecteur, les vaches sont vecteurs.
Le
renard, bien sûr.
Tous les animaux domestiques qui couraient pendant
Et puis quand on connaît les conditions d'hygiène, enfin l'absence d'hygiène, pour parler de conditions d'hygiène, l'absence totale d'hygiène à l'époque, est bien évident que tout ça faisait des ravages. Alors au point de vue médical, je vous ai parlé de peste, mais j'ai oublié de vous parler d'une maladie dont le générique est tout à fait étonnant. On appelait ça la pourpre. Alors, ça a fait au moins autant de morts que la peste. À savoir, selon moi, ça devait regrouper la rougeole, la scarlatine, la variole, la pourpre, tout ça, parce qu'il apparaissait donc
toutes sortes de pustules d'eczéma.
Alors, ça, c'était, il y a eu une mortalité effroyable. Hein, pareil, on le sait très bien, d'ailleurs, quand les Européens sont arrivés en Amérique, on a apporté la variole. Il y a des millions d'Indiens qui n'avaient jamais été au contact de cet agent pathogène et qui en sont morts. Alors, donc, tout ça, ça fait des coupes sombres dans la population. Et mon étonnement, c'est que nous sommes là.
là et ébahi de vous avoir écouté nous raconter les peurs, les diableries et toutes ces superstitions au pays chartrain. Cher Michel Brice, je vous remercie au nom des auditeurs et j'espère que bientôt on va pouvoir lire votre prochain livre sur ce sujet passionnant. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci, félicité.
Au revoir, chers auditeurs.